Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 19h, les débats de panorama sur Europe 1 autour de cette attaque en plein Paris hier soir par un individu 26 ans, fiché S par la DGSI, sous traitement psychiatrique important, nous disait Gérald Darmanin, condamné à 5 ans de prison en 2016 pour tentative d'action violente et d'ailleurs pour tentative d'avoir fomenté un attentat djihadiste qui était en radicalisation avec et en lien avec plusieurs personnes qui eux-mêmes avaient commis ou avaient l'intention de commettre des attentats. On en parle avec mes invités. Bonsoir Christian Proutot.
Bonsoir.
Fondateur du GIGN. Bonsoir Marie-Estelle Dupont.
Bonsoir.
Psychologue clinicienne, auteur du livre « Être parent en temps de crise ». Monsieur le préfet honoraire Michel Aubouin, bonsoir.
Bonsoir.
Je ne pensais pas vous revoir de si tôt, on s'est vu vendredi soir pour le décryptage de votre excellent livre que tout le monde doit lire. Le défi d'être français, on apprend beaucoup de choses. Et bonsoir au commandant de police Christophe Rouget, qui est avec nous en ligne. Commandant, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le préfet Laurent Nunez, en ce moment, parle d'une intervention des policiers remarquable hier soir. Et même, j'allais dire, même Antoine Léaumont de la France Insoumise, qui vient de passer dans ce studio, applaudit pour cette intervention remarquable des policiers. On peut leur rendre hommage ce soir.
Oui, je crois qu'on peut leur rendre hommage, comme c'était déjà le cas à Arras, comme c'est le cas de nombreuses fois, c'est des primo-intervenants, des policiers du quotidien, qui avec courage sont intervenus et ont mis fin à ce périple meurtrier. Il faut souligner la qualité de ce travail. Ils l'ont neutralisé avec un pistolet taser à impulsion électrique, ce qui va permettre maintenant de faire une enquête, de savoir quelles étaient les motivations de ce terroriste.
Oui, alors pistolet taser, tout le monde ne sait pas exactement comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça permet de faire au lieu de plus qu'une arme traditionnelle.
Alors c'est un pistolet à impulsion électrique qui permet soit par contact de toucher la personne et de lui envoyer une décharge électrique pour le neutraliser, soit à distance avec des petites fléchettes, comme ça a été le cas là, qui permettent effectivement là aussi d'avoir une décharge électrique qui crée un trouble chez l'individu qui permet de l'interpeller à ce moment-là.
Une petite digression sur, vous avez dit, effectivement, ce sont des policiers de proximité, ce qu'on appelait communément des îlotiers. C'est pas commun pour eux de se retrouver face à ce genre d'événement ?
Non, c'est pas commun, et c'était le cas de nombreuses reprises. Je vous lisais à Arras aussi dans le lycée, où c'était aussi des policiers qui étaient en patrouille, qui sont intervenus. L'essentiel, c'est d'avoir des policiers qui interviennent vite, d'avoir du bleu sur le terrain, et c'est le cas. Vous voyez, ils sont intervenus très vite, comme ça a été le cas sur de nombreuses attaques terroristes. Ça, c'est important. Ils ont été formés depuis les attentats aussi de 2015 en France. Il y a eu beaucoup d'armement qui a été modifié pour pouvoir intervenir, même si parfois on nous fait des reproches, on dit « mais qu'est-ce que c'est ces policiers sur les manifestations avec des armes longues ?» Mais tout ça, ces policiers sont là pour intervenir en cas d'attentat, comme c'était le cas hier soir à Paris.
Merci Christophe Rouget, merci de votre témoignage ce soir sur Europe 1. Christian Proutot, cette attaque terroriste intervient. On va revenir sur le profil psychologique avec Marie-Estelle Dupont dans un instant, mais cette attaque s'en est une de plus, même si c'est un profil particulier cette fois-ci.
Oui, mais ce qui trouble le plus, je pense, c'est le fait qu'il était connu, qu'il avait fait pour des raisons qui sont similaires à ce qui l'a conduit à ce crime. Il avait fait l'objet donc d'une incarcération, d'un suivi psychiatrique, semble-t-il, mais qu'il était, étant connu pour sa radicalisation, à partir du moment où il avait purgé sa peine, tout le monde est surpris, ou pourrait être surpris, du fait qu'il ait pu récidiver sans qu'on ait pu anticiper.
Il y a un trou dans la raquette ?
La raquette, au départ, s'est fait avec des trous, mais là, en l'occurrence, effectivement, il y a un trou dans le système.
Mais c'est quoi ? C'est le renseignement ?
C'est le renseignement, mais c'est aussi le suivi psychiatrique qui, apparemment, le juge à l'application des peines était contre l'interruption du traitement. Si il est avéré que ce traitement est à l'origine de la radicalisation, en plus d'une radicalisation, je dirais, que l'on a vu progresser comme elle progressait, ne serait-ce que par les gens que l'on rencontre, avec un profil qui était plus adapté à accepter ce genre de fadaise qu'on leur vend, sauf qu'elles sont mortifères, eh bien, on peut se poser des questions sur l'interruption de ce traitement. Ou alors, dans ce cas-là, on le laisse enfermer, mais on ne peut pas en l'état actuel du droit. Il faut qu'il y ait une décision de justice qui puisse dire qu'il est dangereux pour lui-même, à la limite, bon, on peut en penser ce que l'on veut, mais c'est moins le problème actuellement, oui, que pour les autres.
Les informations arrivent au compte-gouttes et d'après ce qu'on sait, il avait un besoin de repères qui avait accéléré sa radicalisation. L'État islamique lui donne notamment des critères directifs de son mode de vie. Il est devenu un promoteur de l'idéologie, djihadiste. Il s'était rapproché de personnes qui justement, il faisait des recherches sur les bombes au phosphore. Il s'était rapproché d'Adel Kermiche, l'assassin du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. En 2016, il reconnaissait avoir encore des idées noires. Au procès qui l'inculpait en 2018, ses mères disaient qu'il était manipulé, qu'il avait très très mal vécu sa conversion à l'islam. C'est un profil vraiment totalement atypique, Marie-Estelle Dupont. Et comme on l'a dit, effectivement, il avait un traitement qu'il suivait jusqu'en 2022. Simplement, voilà, le médecin dit d'accord, vous arrêtez le traitement et le juge dit finalement, vous devez le poursuivre ou le contraire. Je ne sais plus, c'était l'un ou l'autre.
Apparemment, c'était une interruption de traitement avec l'accord du médecin, mais contre l'avis du juge. Ouais. Alors, un profil très très atypique, c'est-à-dire plutôt un profil méconnu du grand public. En général, le grand public connaît les personnes qui fonctionnent normalement et les personnes schizophrènes, c'est-à-dire les psychotiques. Et il y a un domaine, un registre de troubles de la personnalité qui est assez méconnu, qui sont tout le registre de ce qu'on appelle les profils narcissiques, les profils sociopathiques, psychopathiques, qui sont caractérisés par l'impulsivité, la difficulté à gérer les émotions, l'absence de colonne vertébrale finalement. Donc des gens influençables, à qui si on promet certaines choses et un certain sens à leur vie vont se raccrocher à ça et vont avoir envie par un besoin mégalomane d'exister d'en faire la promotion. Et puis ils sont évidemment caractérisés par un déficit d'empathie extrêmement important.
Ils n'ont pas d'émotion si quelqu'un souffre ou si quelqu'un...
Alors, c'est ce qu'on appelle des profils dissociés. Et c'est quand même important de rappeler, je pense, que contrairement aux profils dissociés, les schizophrènes ne sont pas plus violents que le commun des mortels, en fait, que les personnes qui n'ont pas de pathologie psychiatrique. Parce qu'on aurait tendance, en disant que quelqu'un qui commet un crime est forcément un psychotique schizophrène, à stigmatiser les schizophrènes qui ont simplement besoin de soins psychiatriques et qui ne sont pas des gens plus dangereux que la moyenne. En revanche, les profils dissociés, par le fait même qu'ils sont dissociés de toute émotion et de toute empathie, sont très dangereux. Puisqu'il suffit qu'à un moment donné, une partie violente, une rage narcissique, une zone de leur personnalité dissociée du reste et du fonctionnement adaptatif prennent les commandes et ils vont passer à l'acte de manière très très violente. Et on en a eu de nombreux exemples dans l'actualité, notamment chez des jeunes qui ont assassiné leur professeur l'année dernière.
Donc, d'après ce que vous dites, le fait d'avoir laissé en liberté, parmi nous, un individu comme celui-là, c'était finalement très très dangereux.
Oui, alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'abord, le problème de la psychiatrie en France, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que on a sur notre territoire des gens qui sont radicalisés, dont manifestement 20% auraient des troubles psychiatriques, et on a la prétention de croire qu'on va réussir à les soigner alors qu'on n'a pas de lit, pas de médecin, et que quand un enfant se présente avec des idées suicidaires, on dit aux parents reprenez-le parce que nous, on ne peut pas le suivre. Donc on a un problème de lit, un problème de formation, et surtout on a un problème de suivi en ambulatoire, c'est-à-dire que même si la personne est hospitalisée, une fois qu'elle sort, et moi je l'ai vu quand j'ai travaillé à l'hôpital, tout le problème c'est pas pendant l'hospitalisation. Pendant l'hospitalisation, la personne elle est surveillée, c'est daté. Le problème c'est après, c'est là que quelqu'un passe à l'acte, puisque évidemment s'il n'a pas d'empathie, s'il n'y a pas de compliance au traitement, parce qu'il y a une forme d'anosognosie, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas vraiment la réalité de son trouble, on voit bien que son discours est incohérent. À certains moments il dit oui j'ai des problèmes et j'ai besoin d'être soigné, et à d'autres moments il se re-radicalise. Donc on sent bien la fragilité de cette personnalité. Donc il ne va pas de lui-même se dire il faut que j'y aille deux fois par semaine. Et dès que le médecin lui dit vous pouvez arrêter le traitement, finalement on voit bien qu'il y a une majoration des symptômes et qu'il y a un passage à l'acte à la faveur d'un élément de contexte, puisqu'il dit ce qui se passe à Gaza, etc. Ça a favorisé ma redécompensation. C'est-à-dire que c'est bien un individu qui ne tolère pas la frustration.
Une dernière chose, il y a l'individu a dit vouloir mourir. Qu'est-ce que ça change dans son état psychologique, le fait de dire ou de de dire vouloir mourir ou de vouloir mourir tout court. On ne sait pas encore si c'était juste une posture ou si c'était vraiment...
Il semblerait qu'il ait dit qu'il voulait mourir après les faits. Donc là, on voit bien que toute une partie de sa personnalité est encore complètement radicalisée. Mais moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec le fait qu'on appelle au secours la psychiatrie pour camoufler quelque part ou excuser nos erreurs politiques. Ouais. La santé et la morale, ce n'est pas interchangeable. C'est-à-dire qu'il y a des gens violents qui n'ont pas l'excuse de la maladie et il y a des gens malades qui ne seront jamais violents. Et ça, je pense que sur des sujet comme ça, c'est très important de le rappeler.
C'est exactement ce qu'a
dit. Parce qu'on est encore en train de parler du coupable et pas des victimes et des gens qui vivent terrorisés parce que maintenant, ça peut être quotidien.
C'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Peloux, l'urgentiste, sur une chaîne de télévision. Il dit qu'il faut éviter, dès qu'il y a un attentat, de dire c'est la faute à la psychiatrie. Voilà, c'est la faute. Non,
et puis surtout de psychiatriser le mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un déni du mal. Le mal existe et ça n'est pas forcément le fait d'individus malades.
Michel Auboin, on parlait il y a deux jours sur cette antenne de différentes choses et la façon dont certaines personnes arrivant en France ne voulaient pas reconnaître d'être français. Là, le problème est un peu différent puisque c'est un individu qui est né en France, il est né à Neuilly-sur-Seine, il a grandi ici. On n'a pas encore tout à fait le cheminement par lequel il est passé et comment est-ce qu'il en est venu à cette radicalisation. On a en revanche... une indication, c'est qu'il était placé sous contrôle judiciaire et sous MICAS, qui est un dispositif administratif assorti de mesures visant à prévenir des actes de terrorisme. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le MICAS, Michel Auboin ?
Ce sont des mesures dites administratives qui sont prises lors de la séance de sortie de prison pour des détenus qui se sont inscrits dans un parcours terroriste. En fait, on a déjà des mesures judiciaires de ce type-là, des accompagnements judiciaires. Là, c'est des mesures administratives, à vrai dire. C'est pas grand-chose de plus que des assignations à résidence, des suivis par les services de renseignement, etc. C'est un instrument... à faible portée, si je puis dire. Non, oui. C'est pas vraiment...
C'est un gadget, vous diriez ?
Je dirais pas que c'est un gadget, mais j'espère que la réunion de ce soir, puisqu'il y a réunion ce soir chez la Première Ministre, va aider à trouver des solutions un peu plus pertinentes que celle-ci. Quoi.
Christian Proutot ?
Non, mais au départ, c'est pas un gadget. À chaque fois qu'on met quelque chose en place, on peut espérer malgré tout que c'est pas un gadget. Le problème, c'est les moyens pour l'appliquer. C'est ça.
De la même façon que Marie-Estelle parlait de la psychiatrie. Là, c'est pareil, il faut les moyens. Et puis, manifestement, il n'y en a pas.
Oui, mais si vous voulez me permettre d'un tout petit peu d'expérience, en 10 ans du métier que j'ai eu à faire, en face de moi, j'avais des suicidaires. Or, on se rend compte que dans la plupart des gens qui ont un parcours terroriste engagé, ils vont jusqu'au bout de l'exercice avec le suicide by cop, cette belle formule qui veut rien dire, sauf des types qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Quand vous avez le mépris de votre propre vie, et je ne veux pas me mettre à votre place, le mépris de votre propre vie, vous comprenez bien que la vie de l'autre... David. Elle n'a pas tellement d'importance. Et on est face à ce type de cas qui, malheureusement, vont jusqu'au bout du chemin, puisque de toute façon, ils ont décidé que pour montrer leur détermination, ils sont prêts à sacrifier leur vie, et en plus celle d'un autre qui considère comme étant le prix à payer pour notre société de ce qu'elle fait. Voilà. Et ça, malheureusement... ces profils suicidaires, il ne faut pas oublier qu'ils conduisent quand même à ce que des gens se mettent une ceinture de sécurité, une ceinture d'explosif pour faire sauter.
C'est ce qu'il menaçait de faire ça. Ouais. Michel Auboin.
Non, c'est effectivement ces gens-là sont prêts à mourir et donc on comprend que c'est plus compliqué d'intervenir, mais dans le cas de cet individu qui est suivi depuis longtemps, qui a été incarcéré pour ses faits, qui a été libéré un an d'ailleurs avant son quantum de peine, qui normalement a fait l'objet d'observations à la sortie de sa prison sur la déradicalisation, puisqu'il a suivi une forme de traitement de déradicalisation, qui a fait l'objet d'observations, qui normalement fait l'objet d'un suivi par le renseignement, qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique. Cet individu-là, qui est dangereux pour la société, qui était dangereux pour la société et répertorié comme dangereux par la société, n'aurait jamais dû se retrouver dans la situation dans laquelle il était.
Voilà. La situation, c'est-à-dire ?
Ben, la situation, c'est-à-dire à l'extérieur, armé d'un couteau et d'un marteau.
Mais ça passait l'été ou en prison ?
Et sa place, c'était peut-être pas en prison, mais elle était sûrement pas non plus d'être à l'extérieur sans être repéré. Alors que, on le sait, puisqu'on va le retrouver de nouveau, il était, je crois que d'ailleurs d'autres individus ont été arrêtés, il était en relation avec d'autres, son acte était sans doute prémédité, etc. Donc on a quand même une vraie difficulté qui est... parce que là, on a beaucoup parlé du profil. Moi, je connais rien en psychiatrie, donc...
Ben, ça tombe bien, vous avez une personne à côté de vous qui connaît tout.
Je suis là pour apprendre. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces terroristes, moi, j'aime pas trop l'appellation d'ailleurs terroriste non plus, mais dans ces combattants de l'islam intégriste qui veulent...
Moi, je préfère parler terroriste.
Voilà. Bref. Non, mais on peut parler terrorisme si on veut. En tout cas, dans ces terroristes, on a une pulsion de mort, mais une pulsion de donner la mort, et celle-ci, elle les rend dangereux à la société. Et donc, normalement, au titre d'un grand principe qui existe pour une partie de la société et pas pour l'autre, qui est le principe de précaution, la société aurait dû prendre des précautions pour éviter que cet individu agisse. Et donc, quand la chaîne a dysfonctionné, parce que la chaîne a dysfonctionné, on le comprend, je crois que l'autre question à poser, c'est où la chaîne a-t-elle dysfonctionné? Qui a dysfonctionné dans la chaîne?
D'où la réunion avec à Matignon, c'est voilà. Ça. Hein. On saura peut-être où ça a dysfonctionné. Marie-Estelle Dupont.
Il y a quand même quelque chose qui est très frappant, c'est qu'on en est rendu aujourd'hui à une société où les honnêtes gens vont avoir des QR codes pour se déplacer, d'accord? Mais par contre, des fichiers S en rupture de traitement, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'il va falloir arrêter de taper sur la psychiatrie et lui demander de faire un travail qui revient au régalien. Et quand nos politiques nous disent « il faut que vous soyez vigilants », c'est un aveu d'échec de leur part, non?
C'est-à-dire, vous pensez pas faites attention à vous-même, avec vos propres moyens,
de toute façon, sur
puisque
nos missions
la République
régaliennes,
ne peut pas vous protéger, alors que c'est un article de la Constitution,
de
protéger ses citoyens.
Oui, c'est un article de la Constitution. Et c'est vrai parce qu'en en fait, à chaque fois, vous lisez dans les déclarations des politiques cette phrase qui est « c'est de la faute à pas de chance ». Ah, vous étiez là, c'est bête quand même. Bon, et d'ailleurs, on va faire une marche blanche, etc. Mais c'est pas du tout ça le sujet. Parce que dans cette affaire, quand même, il existe un moyen administratif qui s'appelle l'hospitalisation d'office, qui est à la charge des préfets.
Oui, mais Madame Dupont va vous dire qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux.
C'est parfaitement vrai. Mais s'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, c'est qu'il y a aussi une responsabilité du pouvoir politique.
Bien sûr.
Qui n'a pas créé les places en hôpital psychiatrique. Ça veut dire aussi que dans les établissements pénitentiaires, on n'a pas non plus les unités psychiatriques qui sont
absolument
nécessaires. Tout le monde le sait. Ça veut dire que les fameux stages de déradicalisation ne fonctionnent pas sans ça.
Alors ça,
ben non, oui. Mais enfin ça c'est comme le type qui passe deux jours en stage de sensibilisation après avoir frappé sa femme. Je veux dire, c'est comme les cours d'empathie à l'école. À un moment donné, il va falloir arrêter de dilapiner nos impôts.
Ça veut dire quoi? Ça ne fonctionne
pas. Sur du maquillage.
Ça fonctionne pas.
Non, mais c'est du maquillage.
D'accord.
Dire, on soigne pas les gens comme ça. On fait pas deux jours de sensibilisation pour un homme qui frappe sa femme. On fait pas un stage de déradicalisation en disant qu'il y a quelqu'un qui a une autre anthropologie et qui est prêt à mourir. Que quand même, c'est pas très gentil au vu des valeurs de la République de penser à tuer des gens avec un couteau. Je veux dire, le sentimentalisme, quand même, il faut
Christian
arrêter.
Christian Proutot, moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que je lis dans toutes les dépêches, il était fiché S, on a l'impression que c'est de la glace à la vanille, quoi. Il était fiché S, bon ben voilà, il était fiché S, ça devient, il y a une inertie, c'est hallucinant, bon ben voilà, il était fiché S. Ça veut dire quoi, fiché S? Ça ne veut plus rien dire, en fait.
Non mais vous vous imaginez pas l'évolution qu'il y a par rapport à une époque, et c'est pas de la préhistoire, où j'ai dû m'occuper de la lutte contre le terrorisme. À l'époque, c'était romantique, le terrorisme, bien
c'est
sûr.
Dire.
Ben regardez, prenez les années de plomb, tous les types qui, sous des prétextes les plus fous, Action Directe, vous voulez que je vous fasse la liste,
les Basques,
comme le
les
bras.
Corses, oui, d'accord, très bien.
Bon, il y avait vis-à-vis d'eux un certain romantisme, une espèce d'évanescence libertaire.
Et maintenant
tandis que maintenant, on a mis en place un fichage qui, il n'y a pas longtemps encore, était interdit. On a remis en place un fichage. Donc, c'est déjà pas mal que ça existe. C'est quoi?
Enfin, c'est pas mal si ça existe, mais si ça sert à rien.
Non, mais c'est pas que ça sert à rien. En particulier dans ce cas-là, il est fiché S, mais en même temps, si je m'exprimer ainsi sans faire de politique, il y avait un problème qu'il avait un profil psychologique qu'il fallait prendre en compte. Quand on dit déradicalisation, je suis désolé, mais il a pas suivi de cours de déradicalisation. C'est lui qui a dit qu'il était déradicalisé, en 2016 exactement. Et il l'a dit en faisant un éclat chez lui, en rentrant, en ouvrant le frigo, en mangeant du porc et en buvant une bière. Bon, ça c'est... C'est l'aspect.
Super. Mais
c'est...
Je vais manger une côtelette de porc, du coup, je vais être déradicalisé.
Voilà.
Mais il y a mieux. Hein.
Absolument, ouais. Tout à fait d'accord. Sauf que le profil qu'il avait dangereux du fait que le traitement avait peut-être atténué, et là, je reviens, même si on est d'accord sans être d'accord, la psychiatrie, c'est l'enfant pauvre de notre médecine en France.
Bien sûr, bon, absolument.
Alors, si on ne veut pas prendre en compte qu'on a une société déjà qui va mal, qui en plus, avec tous les fous de Dieu qui courent et qui sont plus sensibles à être entraînés, on n'a pas de dispositif pour les traiter, soit on prend des dispositions administratives qui, dans le droit, en dehors de ce qu'évoquait mon collègue, ancien collègue retraité comme moi, monsieur le préfet, n'existe si le préfet veut bien prendre le risque, mais personne ne le fera, on le sait, donc ils vont se retrouver dans la rue non soignés.
Mais j'abonde dans votre sens, la psychiatrie et le parent pauvre, encore une fois, par exemple en pédopsychiatrie, on a 7 lits d'hospitalisation pour un bassin de 400 000 habitants dans certaines régions de France, et justement parce que c'est le parent pauvre et que parfois l'expertise psychiatrique auprès des tribunaux, l'expert psychiatre n'a que quelques heures pour évaluer la dangerosité d'un individu, donc on se doute bien que c'est rien du tout. Il faut savoir que, alors c'est pas le cas de ce jeune homme parce que les parents étaient réfugiés, mais dans les politiques, notamment migratoires, on fait venir des gens sur notre territoire pour des motifs de santé psychiatrique. Or, on n'a déjà pas les moyens, donc il faudrait redresser la psychiatrie avant de prétendre soigner des individus d'une autre culture souffrant de pathologie mentale. Ça me semble évident. C'est une parenthèse puisque cet individu était né à Neuilly en 97 et que ses parents étaient réfugiés. Mais il arrive aussi qu'on veuille soigner des gens en ethnopsychiatrie sans avoir même les moyens de soigner les gens qui sont...
Michel, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la psychiatrie une idéologie qui continue de courir sur l'enfermement est une mauvaise solution, etc. Parce qu'on a vu aussi beaucoup de fermetures d'unités psychiatriques sur ce modèle-là. Des gens qui avaient lu beaucoup Michel Foucault, etc.
Oui.
Je dis ça parce qu'on a quand même un gros problème en France, c'est que tout ce qui relève de la privation de liberté est devenu un véritable tabou. La prison, la rétention administrative, on en parle souvent, évidemment, c'est surtout mon sujet, la psychiatrie, etc. Dès qu'on prive de liberté, même pour de bonnes raisons, même pour protéger la société, on a aussitôt toute une gamme, toute une palette de principes qui l'empêchent.
Alors, ce qu'il y a, c'est que oui, bien sûr, il y a de l'idéologie à l'université, il y a de l'idéologie à l'hôpital aussi. Effectivement, il y a eu toute cette mode de Michel Foucault, on n'enferme pas. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire cette idéologie, plus on fait de la gestion bureaucratique et on fait des économies, donc on ferme des lits, mais c'est très hypocrite parce que par quoi remplace-t-on ? On remplace par des molécules. Et c'est pas du tout pareil d'envelopper et de contenir un individu et de le laisser dans la nature avec des molécules à dose de cheval qu'il prendra ou qu'il ne prendra pas, avec tous les effets que ça peut engendrer de les prendre un jour et de ne pas les prendre et sans accompagnement thérapeutique, parce qu'on parle toujours des molécules, on ne parle jamais de l'accompagnement thérapeutique.
Eh bien, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, ça n'est que le début de cette histoire. Merci à vous trois d'avoir participé.